Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai et c'est justement la fête de l'Europe. Donc, nous enregistrons ce jour-là. De quoi nous réjouir, d'une part parce que les élections françaises ont donné une large majorité à un candidat qui était pro-européen. Ça, c'est une bonne chose, il faut le dire en passant, ça nous fait plaisir. C'est la fête de l'Europe et puis, disons que dans l'actualité, on a entendu parler d'Europe et pas simplement en termes négatifs. Lorsque quelque chose ne va pas, on dit c'est l'Europe. Eh bien non, là, on change de refrain. Le paradigme a changé, bien pourvu que cela dure. Alors, fête de l'Europe d'abord.
Oui, bonjour Raymond. Simplement pour ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas suffisamment, mais le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, avait fait une déclaration publique qui est retenue dans l'histoire comme la déclaration Schuman et qui est considérée depuis cette date comme l'acte de naissance fondateur, en tout cas, de l'Union européenne. Et il y a tout cette symbolique autour de cette déclaration. À côté, ce qui est venu après, plus tard, le drapeau, l'hymne européen, la devise, l'euro, etc.
Voilà, et puis le discours de l'horloge, enfin, c'est...
Le discours de l'horloge, du salon de l'horloge au ministère des Affaires étrangères, est un fait marquant parce qu'il se situait au lendemain du dernier conflit, quand même en 1950, 5 ans seulement après la fin de la guerre. Le souvenir de ce qui s'était passé était cruellement encore à l'esprit de beaucoup. Et Robert Schuman, qui était aussi, rappelons-le, un frontalier, qui parlait couramment l'allemand, qui avait fait des études en Allemagne, qui était un démocrate chrétien, s'est tout à fait entendu avec des personnes qui ont eu la même envie que lui, le même souci de surmonter ce qui s'était passé et de reconstruire quelque chose de neuf. Et c'est pourquoi il s'est tourné, évidemment, vers Konrad Adenauer, et puis aussi, notamment, vers l'Italien de Gasperi. Et puis après, il y a eu aussi, du côté belge et du côté luxembourgeois, hollandais, donc autour de ces six pays, il a lancé l'idée qu'il fallait construire l'Europe, et il y a une phrase dans son discours que j'aime beaucoup, il dit « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Et je crois qu'on est, autant il a lancé à travers la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui à l'époque étaient des choses vraiment importantes parce que...
Oui, c'était des choses essentielles qu'on mettait en commun et sur lesquelles on abandonnait sa souveraineté. Là, je crois que c'est important.
Et sa souveraineté, notamment symboliquement, pour la guerre, parce que militairement, les armées de l'époque avaient besoin du charbon et de l'acier, qui étaient à la base des armements. Et donc, ceci a été mis en commun, justement pour que ce soit une instance supranationale, une souveraineté partagée, qui gère cet ensemble et non plus les États. Alors, et d'ailleurs, il faudrait rappeler que ce n'était pas du tout évident. Quand il a lancé cette affaire, il l'a quasiment fait en cachette même de son propre gouvernement. Il a essayé d'obtenir l'accord sans que ça se sache de Konrad Adenauer. Et dans son gouvernement, il a lancé l'affaire à la dernière minute pour empêcher qu'il y ait toute une levée de boucliers qui, à l'époque, étaient nombreux, tant du côté des gens qui géraient les mines, l'acier, etc., et de chaque côté de la frontière, notamment français-allemand. Et les souverainistes de l'époque, surtout au lendemain de la guerre, étaient très, très frileux de tout ce qui pouvait entacher la souveraineté nationale. Donc ce n'était pas évident. Et c'est assez admirable parce qu'il a fallu qu'il y ait des gens qui aient l'audace de lancer quelque chose qui n'était pas du tout une affaire qui devait marcher. On avait tout essayé dans le passé, mais celle-là, ça n'avait jamais été fait et ça s'est réalisé avec succès.
Il faut dire qu'historiquement, l'Europe dans le passé, c'était toujours une unité faite autour d'une conquête pour asseoir le pouvoir d'un sur les autres, l'Europe napoléonienne ou l'Europe de César, enfin, en prenant les deux extrémités, C'était un peu là. Alors que là, la particularité, c'est quand même une Europe de la paix. Je crois que ça, c'est important à dire parce que nous l'avons oublié. Et puis maintenant qu'il y a quand même l'Ukraine, les flots de réfugiés, on s'aperçoit que les risques de guerre ne sont pas si éloignés.
Oui, on a trop tendance à oublier cette dimension-là. C'est vraiment... On nage béatement dans un univers de paix depuis plus de 70 ans maintenant. Et on oublie qu'à l'origine, s'il n'y avait pas eu justement ce sursaut au niveau européen de quelques hommes qui ont entraîné vers des aspects concrets d'unification de notre continent, eh bien, on n'en serait pas là. Alors évidemment, quand on dit toujours la paix, bon, ça parle peut-être pas suffisamment, mais néanmoins,
tant
c'est
plus
une
que la
chose.
Guerre est irréelle.
C'est la guerre et tant qu'on n'est pas dedans, on n'y
oui,
croit
ça,
pas.
Ouais.
Et puis un beau jour, ben, ça peut arriver. Donc, il faudrait tirer un grand coup de chapeau à des personnes qui, à l'époque, avaient eu, au lendemain de la guerre, eu cet engagement. Alors après, bien, peu à peu, se sont greffés.
Les choses se sont délitées un peu.
Se sont délitées mais... jusqu'au moment où l'Europe, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est tout à fait imparfaite. Ça, on le sait très bien. Et tout reste à construire.
S'enlise dans quelquefois quelques.
Et c'est pour ça que c'est la phrase qu'il a prononcée, que Schuman a prononcée en disant que l'Europe ne se fera pas d'un coup, mais par des solidarités de fait et sur des affaires concrètes, je trouve que cela est tout à fait important. Et maintenant que l'élection présidentielle française est derrière nous, que l'on attend le 24 septembre l'élection, la reconduction de la chancelière allemande ou un successeur du côté donc allemand, l'Europe se retrouve à la croisée des chemins. On sait tout ce qui ne va pas. On sait qu'il y a pas mal de choses qui resteraient à faire. Des projets sont sur la table. Le nouveau président français
en a
déjà
uns.
Placé pour dire il y a dans tel et tel domaine, voilà ce que nous pourrions faire. Donc c'est tout à fait important et je dois dire que cette journée du 9 mai symbolise en quelque sorte ces espérances que nous pouvons mettre pour... tracer notre avenir d'une manière plus positive et surtout concrète.
En tout cas, on peut aussi remarquer que M. Macron, c'est nouveau président, est entré en fonction, si j'ose dire, sur l'air de l'hymne européen. Il y a eu la Marseillaise, mais il y a eu l'hymne européen d'abord.
Oui,
je trouve ça intéressant.
Symboliquement, c'était très très intéressant de voir cela. Pour ceux qui... ont été, ou comme moi, qui ont travaillé pour l'Europe, puisque c'en était mon métier, puisque je travaillais à Bruxelles pour l'Europe, auprès de Jacques Delors, je dois dire qu'à chaque fois, ça m'émeut particulièrement, dans la mesure où j'ai assisté moi-même, personnellement, devant le Berlaymont, à la levée de drapeau, pour la première fois, lorsque le drapeau européen flottait sur le bâtiment du Berlaymont, enfin devant exactement, où se trouve le siège de la Commission européenne, lorsque l'hymne européen aussi a été officialisé comme hymne de l'Union européenne, enfin de la communauté européenne à l'époque, c'était au début de Jacques Delors en 1986. Donc il y a toute une série de faits qui, lorsqu'on est européen convaincu, eh bien, qui touchent parce que les symboles ont leur importance. Et je crois que c'est intéressant de, peut-être de le rappeler, que les symboles, comme la devise européenne, l'Europe qui est unie dans la diversité, cette unité dans la diversité est quelque chose également d'extrêmement important. Alors évidemment, il ne faut pas rester béatement...
simplement en célébration,
mais... ou dire comme De Gaulle l'avait dit pour critiquer à un moment l'Europe en disant l'Europe, il y en a
et
qui
saute comme un cabri.
On saute comme un cabri en disant ça. On connaît tous que l'Europe doit être réformée, mais encore faut-il avoir la volonté de le faire. Or, précisément, cette présidentielle française a permis de clarifier les choses et de montrer qu'une majorité de Français tenait à rester au sein de l'Union européenne.
Oui, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que des gens l'ont exprimé dans les interviews que j'ai pu observer ou dans ce que j'ai pu entendre. Des gens disaient « il y a l'Europe ». Et alors que souvent on avait l'impression que l'Europe s'était jetée aux orties, et finalement non. Alors ça c'est une bonne chose, et on peut rappeler aussi qu'à Chartres, ce soir, pour les Chartrains ou les habitants de Ré-Loire qui le peuvent, il y a au séminaire des Barbelés une fête de l'Europe. Alors parlons-en un peu.
Oui, le séminaire des Barbelés, qui est situé au Coudray, à la périphérie de Chartres, c'est l'association des amis de Franz Stock qui sont installés là-bas. Et cette association porte le nom d'un prêtre allemand et qui, on parlait de symbole tout à l'heure, et qui est également un précurseur, c'est le précurseur dans notre région de cette réconciliation franco-allemande. Pourquoi dans notre région? Simplement parce que dans ces bâtiments anciennement militaires, à la fin de la guerre, les Alliés ont considéré qu'il fallait également reconstruire la démocratie à l'après le nazisme en Allemagne, et que pour aider à ce faire, il fallait former, et notamment des religieux, des futurs prêtres allemands, et donc ils ont été formés dans ce cadre en tant que prisonniers de guerre, mais avec un système d'enseignement tout à fait particulier, puisque c'était un enseignement religieux. Et tout à fait. Et donc cet ancien camp militaire est devenu ce symbole chartrain de la réconciliation franco-allemande. L'abbé Franz Stock, bon, ceux qui s'y intéressent pourront toujours se reporter. Il y a eu des livres sur lui-même. Il suffit d'aller sur Internet, on trouve beaucoup de choses le concernant. Mais c'est véritablement un homme qui a toujours œuvré pour l'amitié franco-allemande. Il a eu un rôle non négligeable pendant la guerre en tant que prêtre, apportant son aide aux fusillés du Mont-Valérien, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un de remarquable et qui a une vie littéralement de sainteté.
Alors à Chartres, effectivement, ce soir, il y a la fête.
Parce que chaque année, cette association, qui est très engagée pour l'Europe, organise une fête européenne autour du 9 mai. Et ce soir, ce sera la fête. C'est un pays qui est retenu. Chaque année, cette association retient un pays européen et qu'elle le fête. Et ce soir, il y a un concert. Ce soir, à 20h30, au séminaire des Barbelés, au Coudray, un concert de musique irlandaise. Demain, mercredi, il y aura également la harpe, avec un nouveau concert avec les élèves du conservatoire de Chartres. Et puis, jusqu'au 31 mai, il y aura des expositions au séminaire des Barbelés concernant l'Irlande. Ceci méritait d'être dit, parce qu'en cette journée du 9 mai, qui n'est pas tellement fêtée au plan national, eh bien, à Chartres et sa région, son agglomération, eh bien, il y a des choses qui se font. Et bravo à nos amis du séminaire des Barbelés.
Eh bien, nous allons faire une pause avant de poursuivre. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bienvenue en Europe, et le moment aussi de revenir sur un certain nombre de réalités, parce que eh bien, ça n'est pas le tout de fêter l'Europe et de fêter le passé, on fête aussi le présent, et puis le présent où l'avenir est à construire. Alors, au travers d'un certain nombre de personnes qui, quelle que soit leur opinion politique, disaient « eh bien l'Europe, il faut la transformer ». Alors effectivement, peut-être des transformations, et on peut évoquer justement en tout cas ce besoin de démocratie d'une part, et d'autre part ce besoin aussi de vérité. Alors, il n'y a pas la vérité avec un grand V, mais il y a la recherche de la vérité. Et face au mensonge qui a abouti au Brexit, puisque en fait même les hommes politiques comme Boris Johnson se sont vantés après le Brexit et la victoire de leurs idées sur le Brexit, ils étaient favorables au Brexit, lui et Nils Farage, disaient « Eh bien, nous avons menti ». Donc là aussi se pose la question du mensonge et de la recherche de la vérité, là aussi, lorsque on nous raconte des histoires sur le budget, sur un certain nombre de choses, eh bien, l'Europe, elle a peut-être besoin, et c'est parce que c'est une union de démocratie, elle a besoin de vérité, parce que qu'est-ce qu'on peut construire pour vivre ensemble si on ne veut pas se faire confiance, si on ment? Alors, ceci étant dit, l'avenir, justement, alors, pour construire.
Pour construire sur, au départ, sur fondement de la vérité. Je dirais que l'une des premières vérités à dire concernant l'Europe, c'est que l'Europe ne se fait pas à Bruxelles au sein d'un organisme caché qui serait la bureaucratie qui y est établie autour, par exemple, de la Commission européenne. Non, l'Europe se fait selon des règles qui ont été peut-être pas toujours suivies ces dernières années, mais au départ, ce sont les États, ce sont les États. La Commission européenne, on l'a souvent répété à cette antenne, elle propose. Les États et le Parlement européen décident. Donc pour que l'Europe, et on en connaît bien les imperfections, actuellement, elles ont été suffisamment soulignées, au point d'arriver à ce qu'il y ait un rejet dans une certaine catégorie de population, notamment en France, dire l'Europe, ça ne marche pas, etc. Il faut en revenir à la France d'autrefois. Mais la France d'autrefois, on a vu où ça nous a mené, comme l'Allemagne d'autrefois, on a vu où ça nous menait. Donc là, il y a vraiment un acte de vérité à mettre tout de suite d'entrée de jeu. Pour que l'Europe change, il faut que les États, nos gouvernements, décident de la réformer. Et ce n'est pas Bruxelles qui décide, c'est Paris, c'est Berlin, ce sont toutes les capitales européennes qui, réunies autour d'une table, décident directement. Et
ça veut dire peut-être qu'il faut retrouver des lieux où on va établir des autorités supranationales, alors pas pour tout. Donc la taille des cages à poules, on la laisse aux agriculteurs, mais par contre, les grandes orientations, elles sont peut-être à prendre au niveau européen.
Tout à fait. Donc il y a des domaines qui évidemment relèvent plus particulièrement de l'Europe parce que simplement un État isolé ne peut rien faire tout seul. Il y a un précepte bien connu qui est « l'union fait la force ». Cela paraît évident et que l'Europe que l'on doit construire, notamment comme le rappelait Robert Schuman, par des actions concrètes et bien identifiées, eh bien cela, il faut le mettre en commun. Et cela n'implique pas du tout qu'il y ait une perte de souveraineté de nos différents États. Simplement, pour les domaines qui ont été identifiés, il y a une souveraineté partagée. Donc ça ne veut jamais dire qu'il y a une perte de souveraineté. Connaissant personnellement le fonctionnement interne des institutions européennes, je dois dire que j'ai été frappé ces dernières années de voir combien on s'est détourné des préceptes de départ et que ce sont précisément les États qui ont, au sein du Conseil, alors qu'il n'y a pas de public pour assister à leur prise de décision, qui, avec leur gouvernement, décident, tracent la voie de l'Europe ou plutôt ne la tracent pas, mettent des freins de tous les côtés. Et lorsqu'il y a, par exemple, en ce qui concerne la crise des migrants, qui est une crise majeure de ces dernières années, si les choses ne vont pas bien, eh bien, c'est précisément la faute de nos gouvernements qui n'ont pas réussi à se mettre ensemble d'accord, qui n'ont pas fait état de solidarité entre eux pour parvenir à quelque chose de concret. C'est un exemple parmi d'autres,
oui, alors,
mais on pourrait en sortir d'autres. Alors, dans le programme, il y a d'ailleurs, sans aller encore là, cela me fait penser à une chose. Pour ceux qui seraient intéressés, je signale quand même un livre que je trouve remarquable. d'un journaliste français qui est un correspondant de Libération à Bruxelles, Jean Quatremer, qui a écrit dernièrement un livre qui s'appelle « Les salauds de l'Europe ». Alors avec un nom pareil, évidemment,
cela pour attirer le lecteur,
mais aussi pour attirer les eurosceptiques. Et dans ce livre, je le signale en passant parce que justement, c'est un Européen convaincu. Pour ceux qui l'ont entendu à la radio, qui ont lu ses articles ou qui le voient à la télévision de temps en temps dans l'une ou l'autre émission à laquelle il participe, c'est tout à fait intéressant parce qu'il a repris tous les arguments des eurosceptiques en disant « oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, c'est vrai, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas ». Mais alors après, il dit « mais quelle est la vérité ?» La vérité, c'est que on ne fait rien, on accuse justement ceux qui n'y sont pour rien. Et il propose lui-même toute une série de remèdes, et il a même l'audace de tracer en conclusion une image de ce que pourrait être l'Europe si justement il n'y avait plus l'Europe, que la France se retire et qu'elle soit complètement isolée. Et alors on assisterait, évidemment c'est de la fiction, à une espèce de résurgence de l'empire germanique d'autrefois qui s'allierait avec toute l'Europe du Nord et de l'Est, et la France serait complètement perdue, isolée dans le Sud, pouvant toujours crier comme elle pourrait, mais sans aucune voix. Donc c'est assez amusant, c'est sur un ton humoristique, comme c'est l'aide de cet auteur, mais je voulais un peu le signaler au passage, parce que ça fait du bien de remettre les choses en place, et là on revient à nos fondamentaux, la vérité. Il est tout à fait intéressant de voir que notre nouveau président, Emmanuel Macron, a proposé des choses tout à fait concrètes dans son programme concernant l'Europe, et nos amis européens, et notamment en Allemagne, attendent avec impatience de voir se concrétiser la mise en place de son gouvernement pour voir ce que l'on pourra faire ensemble. Parce que là aussi, si on n'arrive pas à faire quelque chose avec nos amis allemands, d'abord, et ensuite avec les autres, eh bien, on ne pourra pas aller de l'avant, en tout cas très difficilement. Donc il a identifié toute une série qui ne vont pas, de choses qui ne vont pas, et simplement je retiendrai pour le signaler à ceux qui voudraient approfondir la chose.
Par exemple sur l'euro, sur l'euro,
eh bien, il propose de trois fonctions essentiellement, de créer un budget spécial pour la zone euro, qui serait consacré aux investissements d'avenir, à l'assistance financière d'urgence et à réponse aux crises économiques. Et ce budget serait évidemment conditionné au respect de règles communes, notamment en matière fiscale et sociale. Et c'est bien ça où est le problème, puisqu'il y a, tout le monde le sait, une concurrence souvent déloyale au sein de l'Union européenne. Et c'est ça qui trouble, parce que précisément, à l'époque, Jacques Delors avait fait des propositions sur le plan économique qui allait de pair avec la mise en place d'une monnaie unique, mais qui n'a pas été retenue. Donc je signale cela, entre autres avec la création d'un ministre de l'économie et des finances dédié uniquement à la zone euro, sous le contrôle d'un parlement uniquement dédié également à la zone euro. Donc c'est ce que l'on appelle dans le jargon institutionnel les coopérations renforcées, c'est-à-dire que si l'Allemagne et la France se mettent d'accord sur un certain nombre de choses comme celle-là, eh bien les États, les pays de la zone euro qui voudraient s'y joindre, pourraient s'y joindre, sans attendre que les autres la rejoignent. Donc c'est un peu une Europe à plusieurs cercles, mais qui n'attend pas et qui veut aller de l'avant. Et d'autant plus que parallèlement, nous le savons, il y a les négociations du Brexit qui vont sans doute commencer. Et là aussi, il est important que l'Europe fasse la différence entre ceux qui veulent en sortir tout en voulant conserver le beurre et l'argent du beurre, comme on le sait. Et donc, il est très important que l'Europe reste unie et solidaire par rapport justement à ce problème.
À cet égard, j'ai trouvé tout à fait intéressant l'analyse que j'ai pu lire ici ou là, disant le Brexit, ça n'est pas simplement les Anglais, mais c'est aussi un ensemble de populations qui se sentent délaissées, qui se sentent... parce que quand on dit l'Europe, ça veut dire regarder vers l'international. Et pour les gens qui ont vraiment du mal, déjà, dans leur vie quotidienne, ici, eh bien, ils ont l'impression d'être totalement dépassés. Et je trouvais intéressant que cet homme politique évoque le Brexit, non pas en stigmatisant les Anglais ou le vote de quelques-uns, mais en disant « faisons attention et prenons garde, apprenons à tenir compte des plus petits, de ceux qui ont l'impression d'être délaissés ». Et là, peut-être, il y a aussi une réflexion à avoir. pour que dans la vie politique, eh bien, on fasse attention aussi à ceux qui sont les plus pauvres. Une Europe sociale, c'est une Europe qui tient compte des plus pauvres.
Et une Europe véritablement démocratique, qui donc, à travers l'élection du Parlement européen, certes, il y a cette représentation du peuple, mais on sait très bien qu'elle est insuffisante, non seulement en raison de son mode d'élection, mais également en ce qui concerne son mode de fonctionnement, puisque ce Parlement n'a pas de pouvoir législatif, en tout cas de proposition en tant que tel. Il ne peut pas proposer un budget, il ne peut que l'entériner en disant oui ou non. Et donc il y a beaucoup de choses à améliorer sur cet égard. Si le Conseil, avec des ministres notamment, joue un rôle ou devra jouer un rôle également important comme il l'a déjà aujourd'hui, mais à la condition qu'il soit également contrôlé ou en tout cas transparent pour que la vérité là aussi soit éclatante. Donc il y a effectivement sur le plan démocratique beaucoup de choses encore à faire et c'est un chantier passionnant qui est celui qui s'ouvre devant nous.
En tout cas, chers auditeurs, on tâchera d'en rendre un peu compte. Donc parlons un peu des autres aspects concernant l'Europe.
Mais sur le Brexit, je voudrais quand même signaler donc il y a eu sur le plan européen d'abord, puisque l'article 50 a été introduit par le Royaume-Uni. Donc il y a maintenant un mandat juridique qui est sur la table. La Commission européenne a fait des propositions en début de ce mois pour dire voilà comment on devrait conduire les négociations pour parvenir à un accord qui soit constructif et non pas punitif ou qui soit une espèce de guerre entre la Grande-Bretagne et ses anciens partenaires, mais que ce soit un accord clair. Et le Conseil devrait donc donner son accord sur ce mandat le 22 mai prochain. Donc on en saura plus lors de notre prochaine émission, on pourra y revenir. Mais d'ores et déjà, c'est intéressant d'indiquer que le représentant des négociateurs au sein de l'Europe était l'ancien ministre Barnier, qui est à la tête de cette task force, en quelque sorte, pour parler bien, rester du côté de nos anglophones, nos amis anglophones, pour indiquer que du côté de l'Union, on a déjà préparé un plan de négociation en mettant en avant d'abord le respect du droit concernant notamment les citoyens européens, tant en ce qui concerne les citoyens britanniques au sein de l'Union européenne que du côté
des Européens
en Grande-Bretagne. Et ça touche des milliers de personnes. Donc le Conseil a bien indiqué quel était le mandat à suivre en deux étapes. Donc la première, qui doit respecter les principes fondamentaux, notamment les quatre libertés, à savoir la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes. Et sans cela, le marché unique ne peut pas fonctionner. Donc il faut que la Grande-Bretagne prenne une position excessivement claire s'agissant de cet aspect des choses. Et on y reviendra certainement à plus d'une occasion, puisque le Brexit, encore une fois, n'est pas en place. Ce sera qu'au bout de 2 ans, normalement, si tout va bien, qu'il devrait y avoir un accord entre le pays sortant et ceux qui restent.
Et puis enfin, il y a aussi l'enjeu des élections en Grande-Bretagne. Donc ce sont des affaires à suivre. Et chers auditeurs, eh bien, on vous dit à notre prochaine émission. Au revoir.